first sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
20h02 et tout de suite retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Au programme ce soir, c'est l'émission spéciale UFAB 49 dont je vous présenterai notre invité tout à l'heure. Avant ça, je vais vous présenter les chroniqueurs qui m'accompagnent ce soir. Il y a à ma gauche Clément, salut Clément.
Salut Faustin, salut à tous. Bon, écoute, moi ça va, un petit week-end avec un match amical qui a été perdu, mais bon, 5-4 et ça nous propose de bonnes choses pour la suite puisque c'était ce gré et il y avait 5 ou 6 joueurs qui jouaient en R1, donc le niveau au-dessus d'une autre maintenant. Donc bon voilà, ça nous promet de belles choses et premier match de région ce week-end, donc on verra ce que ça donne.
En espérant un bon début de saison avec une victoire, évidemment. À ma droite, Cédric, salut Cédric.
Salut tout le monde.
Ça va, t'as passé un bon week-end?
Eh ben écoute, moi c'était le début de la Road to WrestleMania qui commençait ce week-end avec Royal Rumble, donc forcément un petit week-end un peu fatigant, mais ça s'annonce beau pour la suite des événements.
Parfait. Et du coup, comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui c'est l'émission spéciale UFAB et on reçoit Yulise Teyer. J'espère que je prononce bien.
C'est ça, tu l'as bien prononcé.
Parfait. Chargé de communication du coup de l'UFAB 49. Bonsoir à toi.
Bonsoir à vous.
Voilà. On va commencer sans plus tarder par les actualités locales avec le SCO qui s'est pas très bien débrouillé. Clément.
Ouais, du coup il y a eu deux matchs puisqu'il y en avait un qui avait commencé au cours de l'émission mardi dernier et c'était face à Quevilly-Rouen. Et ça s'est soldé par une victoire arrachée sur le fil à Raymond Coppa. Les Angevins se sont imposés 3-2 au terme d'un match un petit peu foufou. Mené 1-0 au bout de 19 minutes, le SCO a su se remobiliser et reprendre les devants avant la mi-temps grâce à un but sur penalty d'Abdelli et un second de Farid El Melali qui va ensuite donner la victoire au SCOïste à la 93e minute de jeu. Au terme de ce match dingue, les joueurs d'Alexandre Dujeu reprennent la première place à Auxerre, mais ils ont malheureusement perdu celle-ci hier soir en étant défaits au Matmut Atlantique face à Bordeaux. Donc Auxerre leur est repassé devant. Les Angevins se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Bordeaux. Malgré un match dominé par les Noirs et Blancs, le SCO n'a pas su faire la différence et voit Bordeaux leur faire subir déjà la troisième défaite de 2024.
Ouais, 2024 qui se passe bien moins bien que 2023. Rien de grave évidemment, on est deuxième égalité, il me semble, avec le premier, oui, à 43 points. On a 4 points d'avance sur Laval, qui est troisième du coup avec 39 points. Je pense qu'il n'y a rien d'alarmant, mais il faut quand même rester dedans si on veut viser une montée directe, donc dans les deux premières places. Et je pense que ce serait bien de viser au moins un top 5 au vu de la première moitié de saison.
Bah oui, c'est sûr. Le SCO, je pense qu'ils avaient réussi un peu à se rassurer en gagnant sur le fil 3-2. Mais hier, ils ont quand même largement dominé le match et ils n'ont pas réussi à conclure leurs actions, donc c'est pas si alarmant que ça, parce que c'est sûr que ça fait mal de perdre 1-0, mais ils ont quand même bien joué et ils ont proposé du beau jeu et je pense que ça va porter ses fruits dans les prochains matchs.
Ah, ce qui fait mal, c'est quand même 22 tirs cadrés, quoi.
Ah bah oui,
et il y en a aucun qui rentre. C'est vrai que sur ce genre de match là, ça pèse, hein.
Ouais, c'est ce qui manquait un peu aussi la saison dernière au SCO, c'était le réalisme.
Après, il faut pas oublier qu'il y a la période de la CAN qui touche un peu le club.
Le gardien surtout, je pense.
Ça peut y jouer aussi, tu vois. En soi, voilà. En tout cas, ce qui était fort intéressant, c'est sur le match à domicile. Quand on est sorti du studio, il y avait de l'ambiance parce que avec le vent qui portait, on entendait bien les supporters et
ouais, c'est vrai.
Sur le but, crois que c'est son penalty
de Abdelli, ouais.
C'est ça, c'est,
ouais,
ça, le, c'est ça. On sortait tout juste, je crois, des studios. Quand
ouais, bah oui, c'est ça.
Et j'étais au courant déjà qu'il y avait un but pour le SCO, et dans la soirée de mon appart, j'entendais encore. Donc, ouais,
parce que on le rappelle aux auditeurs, le studio n'est pas si loin du stade Raymond Coppa. Oui. Quand il y a du bruit, on l'entend quand on sort. On va maintenant passer à l'autre SCO, le SCO Hand. Que s'est-il passé, Clément?
Nos Angevins, après la victoire à l'Euro des Français, reprendront du service au Hara le 2 février, donc ce vendredi, à 20h30, face à Valence pour la reprise du championnat, puisque le championnat n'avait pas encore repris.
Évidemment, parce qu'il y avait les championnats d'Europe qui avaient lieu. On en reparlera évidemment après. Maintenant, du côté du basket dans le Maine-et-Loire, je vais démarrer avec l'EAB qui a subi une nouvelle défaite sur le score de 79 à 66 contre Boulazac. Les Angevins n'ont pas réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive, ce qui aurait pu être décisif pour le reste de la saison. Ils jouent cependant ce soir même à Jean-Bouin contre Saint-Chamond. Du côté de l'UFA, elles ont perdu elles aussi contre Basketland sur le score de 84 à 71. J'ai envie de dire rien de grave face au premier du championnat. Mais il faudra gagner ces jeudis contre Landerneau, qui sont derniers au classement, pour sortir des places du play-down. Maintenant, du côté de Cholet, les hommes de Laurent Villa ont démarré la semaine avec une victoire dans cette deuxième phase de groupe de Ligue des Champions. C'était contre Strasbourg sur le score de 98 à 93, une grosse victoire donc. Ils jouent demain contre Malaga à la Meilleraie pour donc le deuxième match de cette deuxième phase de groupe de Ligue des Champions. Et après, ils ont aussi gagné en Betclic Elite. C'était assez facile, c'était contre les Mets 92 qui sont derniers au classement. Les Mets 92, l'année dernière, tout le monde les redoutait avec leur armada Bilal Koulibaly et Victor Wembanyama notamment. Alors que cette saison, bah, il n'y a plus personne et c'est assez triste à voir. Voilà pour ce qui est du basket. Maintenant, on va passer au Duc, qui s'en sortent très bien en ce moment avec trois victoires cette semaine. La première contre Briançon, c'était mardi dernier, un peu après l'émission. La deuxième contre Cergy, et surtout la troisième contre Rouen, ce qui annonce du très bon pour la suite de la saison. On peut espérer voir les Ducs aller très loin dans cette Magnus. Cédric, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est surtout qu'on se rapproche vraiment de la fin de la saison régulière. Donc là, c'est plus une question de se qualifier, parce que là, avec les points qu'on a, c'est bon, on sera au moins dans les trois premiers.
Même ça a été validé la semaine dernière, d'ailleurs.
C'est ça, voilà.
Qualification.
Donc, on sera logiquement en tête pour les tirages. Donc, en soi, on devrait avoir un tour un peu plus facile, mais tout peut aller très vite au hockey. Ce qui est rassurant, c'est que, cette victoire à ce moment-là contre Rouen, même si bon, c'était un Rouen apparemment diminué, ça n'a pas empêché qu'on perde notre gardien quand même titulaire, ouais, sur ce match-là.
C'est dommage.
Je sais pas ce qu'il en est de sa blessure, si c'est une longue blessure ou si c'est pour quelques matchs. Voilà, donc mais ça fait un enchaînement de trois victoires qui fait du bien au club aussi. Bien. Mine de rien, il y avait eu quand même des petits coups un peu au moral qui avaient ralenti l'avancement. Donc, on se projette sur le match déjà de ce soir. Ça va aller très vite, hein, contre les Nice. Ensuite, est-ce qu'on a encore des grosses équipes à jouer? Il y aura quand même Gap, Grenoble à jouer.
Grenoble, on avait perdu le dernier match en plus, donc.
Dernier match contre Grenoble, ce sera à domicile. Et puis, on arrivera au 1er mars, dernier match à l'extérieur de la saison régulière. Et c'est vrai que le dernier match à domicile, ce sera le 27 février contre Grenoble. Ce sera, voilà, un beau moment, je pense,
une belle manière de
mettre la pression pour les playoffs.
Une victoire contre Rouen, ça faisait combien de temps que les Ducs avaient pas gagné contre Rouen? Ça devait faire,
il est sorti en play-off il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, Et après, bon, il y a quand même les victoires sur les matchs aller-retour. Donc, soi, c'est pas un espoir non plus. Oui. C'est juste que,
En saison régulière, ça faisait quand même longtemps.
En saison régulière.
Je suis pas sûr qu'ils les ont pas battus cette année.
C'était peut-être la première, par contre. Ouais, au-delà, s'il y avait peut-être un match, Mais
non, je crois que.
Mais c'est pareil, c'était un Rouen qui était affaibli, donc. Ouais. Bon, là, voilà, ça enlève pas le côté. C'est surtout, c'est dans la manière que ça a été fait, puisque ils ont été chercher le score assez tôt dans le premier tiers-temps. Ils ont tenu et après c'est revenu et ils ont su tenir le troisième. Voilà, oui.
C'est un match assez serré dans l'ensemble. C'est tout pour les actus locales. On va passer tout de suite aux actus internationales avec la Ligue 1. Clément, tu vas nous présenter ça.
Ouais, durant la 19e journée de Ligue 1, ça a commencé par un Rennes-Lyon où Rennes s'impose 3-2 avec un doublé de Martin Terrier qui revient très fort après s'être fait les ligaments croisés. Ensuite, il y a Nice qui garde sa deuxième place en gagnant 1-0 face à Metz. Et Vitinha rate l'immanquable et laisse Marseille et Monaco sur un match nul de partout samedi soir. Triste match nul 0-0 entre Lille et Montpellier. C'est décidément un festival de matchs nuls dimanche après-midi puisqu'il y a 4 matchs nuls en 4 matchs. Donc il y a eu aussi le match nul entre Clermont et Strasbourg. Reims et Nantes, pareil, 0-0. Et le match entre Le Havre et Lorient se solde également par un nul 3 partout. Ensuite, à 17h, il y a eu Lens-Toulouse et Lens s'est imposé 2-0. Et pour finir, Brest fait une bonne opération au Parc des Princes en arrachant le nul 2 partout. Et Brest passe tout de même à la 3e place.
Ouais, Brest qui réalise une très bonne saison.
Ah bah oui.
Je pense qu'en plus, le SCO n'a pas eu de chance de les jouer en Coupe de France. C'était presque perdu d'avance. Et c'est sympa de voir une équipe comme ça s'en sortir d'une telle manière en Ligue 1.
Ça change de d'habitude. Et puis, c'est surtout un ancien SCOiste qui a donné ce nul à Brest, Mathias Pereira-Lage, d'un super but. Ah ouais. Une magnifique matière parfaitement réalisée. Ouais.
Donc quoi, le SCO est toujours présent, on est partout.
Puis, surtout que la fin de la saison arrive vite. Hein.
Bah oui,
de rien.
Ça pourrait peut-être leur donner des idées.
Il reste presque 20 matchs quand même.
Ah ouais, j'ai l'impression
que il reste
il y a eu
17 matchs.
Il y a eu la trêve de Noël, c'est ça qu'il faut un peu. Mais...
Oui, mais bon, ils peuvent toujours espérer l'Europe.
Je pense que là, ça trotte évidemment dans un coin de leur tête.
Après, il faudra voir quelle Europe, j'ai envie de dire. Ce sera ça la question, je pense, qu'on pourra se poser à la fin de la saison.
Jouer l'Europe pour Brest, ce serait une très grosse performance. C'est pas ce qu'ils jouaient au début de la saison. Hein. L'autre actu foot, c'est évidemment la CAN. Qui se poursuit avec la fin des huitièmes qui approche.
Depuis le début de la semaine, même avant le début de la semaine, les huitièmes de finale. Et ça a commencé par un match Angola-Namibie remporté facilement par l'Angola 3-0. Ensuite, le Nigeria arrête l'aventure du Cameroun qui s'était qualifié in extremis en gagnant 2-0. La Guinée gagne facilement 1-0 face à l'autre Guinée, et cette fois-ci équatoriale. Le Cap-Vert bat aussi 1-0 la Mauritanie. Et on a fini par deux matchs qui se sont terminés au pénalty et deux favoris qui sont au final éliminés. Donc d'abord, il y a le Congo qui a renversé l'Égypte 8-7 au pénalty. Et donc la Côte d'Ivoire hier soir qui crée la surprise à la maison face au Sénégal. En arrachant d'abord le nul à la 85e minute, puis battant le Sénégal, donc le champion en titre, 5-4.
Au pénalty.
Au pénalty, bien sûr.
Et le tout sans entraîneur.
Oui, c'est vrai. Ça. Avec l'entraîneur adjoint.
Ouais, je sais pas c'est quoi la plus grosse surprise entre l'Égypte qui se fait sortir ou le Sénégal qui se fait sortir.
Oh, c'est les deux.
C'est
le champion. Oui. Qui se fait sortir, pour moi, c'est la plus grosse surprise. Surtout contre cette équipe qui n'a pas brillé dans les phases de poule, qui limoge son entraîneur alors qu'elle va jouer quand même à une qualification, qui nous sort des plans, mais what the fuck, aller chercher un entraîneur qui est déjà en place. Ce qui prouve bien que quelque part le football féminin là-bas ça doit pas être très respecté. Mm-hmm. Mais c'est Du coup, oui, pour moi, c'est le Sénégal qui sort.
Ouais, pour toi, c'est,
comme ça, c'est
la plus grosse surprise.
Ah ouais, c'est la plus grosse surprise. L'Égypte, je pense que si t'étais parieur, tu mettais pas un. Tu mettais pas de l'argent sur
quand même
leur victoire.
La Côte d'Ivoire, pays hôte, ils ont une bonne équipe, tu vois. À part du coup, les événements
avec
le coach, l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est des meilleurs d'Afrique.
Ils arrivent à sortir de poule grâce à la règle.
Ouais, des meilleurs troisièmes.
Tu vois.
Oui, c'est
et
sûr.
C'était quand même le plus faible des trois. C'est quatre. C'est ça. Tu vois, t'es là, tu fais, tant mieux pour eux. J'espère que, la chance va peut-être les continuer, mais.
Franchement, je pense que là, si le Maroc passe ce soir, oui, parce qu'il y a encore deux autres matchs ce soir. Il y a Maroc, Afrique du Sud et Namibie, j'ai plus l'autre match.
On va le trouver,
Du coup, je pense que ça sera les deuxièmes, les outsiders, puisque le Maroc est au-dessus, mais après, il y aura la Côte d'Ivoire, et pour moi, le Congo qui élimine l'Égypte, c'est vraiment la surprise, parce que je voyais pas du tout l'Égypte sortir en huitième, mais encore moins contre le Congo, donc je pense que c'est vraiment la surprise, et pour moi, il restera la Nigeria, le Maroc et la Côte d'Ivoire, prétendant au titre, peut-être une surprise pour cette CAN 2024. À voir.
Ouais, alors il n'y a pas d'autres matchs.
Non, c'est juste Maroc-Afrique.
La Namibie, ils ont perdu contre l'Angola samedi dernier.
C'est ça.
C'était ça. Mais du coup, là, dans les favoris, il y a quand même beaucoup qui sont sortis. L'Égypte, le Sénégal, le Cameroun. Il reste le Maroc, s'il gagne ce soir, évidemment. Le match est à 21h. La Côte d'Ivoire qui, mine de rien, pour moi, fait quand même partie des favoris.
En fait, c'est le match entre le Mali et le Burkina Faso qui s'est terminé. Le Mali, elle l'a remporté.
Ah oui, qui s'est fini aujourd'hui. Tout à fait. Voilà pour ce qui est de la CAN. Une autre grosse actu qui nous concerne, Alex n'est pas là pour nous en parler, lui qui est fan de handball, mais c'est évidemment que la France est championne d'Europe de handball. Après une demi-finale et une finale plus que serrée, les Français décrochent leur quatrième titre européen, avec notamment un but incroyable de Elohim Prandi pour envoyer la France en prolongation face à la Suède en demi-finale. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette image, je vous conseille d'aller la regarder, je vais essayer de vous la décrire, mais c'est un jet de 12 mètres, 60 minutes se sont écoulées, c'est au basket.
59-59. Le temps, il s'est arrêté. Enfin, il y a faute qui est sifflée à 59-59 et la seconde, elle passe. Et du coup, sur le tableau d'affichage, c'est marqué 60. Okay. Mais en gros, si la faute a été sifflée à 60, c'était fini. Okay. Mais du coup, vu que ça a été sifflé une seconde avant.
Et du coup, j'ai 12 mètres, le mur suédois se met en place. Ouais. Il se décale sur le côté droit, il envoie une grosse frappe barre en 30. Ce qui fait
ça touche le goal et après ça rentre dans le but.
D'où la phase après de doute sur l'analyse. J'ai jamais vu autant une image autant analysée sur un match de hand. Généralement, ça se passe.
Ah bon? Non. C'est une autre action où ça a été analysé.
Alors c'est sur le.
C'est dans les prolongations. Était pas sûr d'être rentré.
C'est
à la toute fin du match, mais la France était sûre d'avoir gagné.
Mais ce match-là, de toute façon,
c'était du grand handball. Et puis en finale, après, pareil, ça allait en prolongation. C'est la France qui s'en est sortie face aux Danois. C'est souvent ces finales-là auxquelles on
devra jouer. Le Big Four, c'était le Big Four quasiment annoncé. Hein.
Ouais. Et puis, comme ils disent, les championnats d'Europe... Au hand, c'est pratiquement le championnat le plus dur à gagner parce que la densité elle est énorme. C'est que des grosses équipes
qui s'en sortent. Et puis ça annonce aussi surtout du bon pour les Jeux Olympiques qui arrivent cet été. C'est jamais arrivé qu'une équipe fasse le combo championnat d'Europe puis Jeux Olympiques. On espère être les premiers parce que on a l'équipe pour, on a tout ce qu'il faut pour. Ce serait c'était aussi, je l'ai pas dit, mais sûrement le dernier titre européen de Nicolas Karabatic.
Non, ça a déjà été annoncé. Il ira pas plus loin que les JO. Je crois que d'ailleurs les deux frères.
Il va peut-être même pas être pris aux JO. J'ai vu une interview où il disait que c'est pas un élément maintenant. comment dire, indispensable à l'équipe, et puis le coach n'hésitera pas à s'en priver si jamais il n'a pas les performances qu'il faut, quoi.
Comme ça c'est dit, mais au moins il aura, s'il n'est pas pris au JO, il finira sa carrière en bleu sur une très bonne note.
Oui. Après, au vu quand même de la demi-finale et de la finale, va falloir quand même travailler.
C'était vraiment serré.
Ouais, mais il va falloir justement travailler encore plus pour repasser un cap supplémentaire. Ouais. L'avantage, tu me diras aussi, mais c'est qu'on n'aura pas de tour préliminaire à jouer pour aller se qualifier pour championnat du monde. Mmh. On est déjà qualifié, donc ça veut dire stage de préparation supplémentaire. Et peut-être un match ou deux de préparation, mais voilà.
Pour les JO ?
Pour les JO, ouais.
Ouais, voilà. Donc, ça annonce beaucoup de bons pour cette équipe de handball de l'équipe de France. Donc.
Les deux équipes de France, puisque les femmes, ça promet aussi.
Tout à fait.
Peut-être un doublé.
On a de quoi voir briller dans tous les sports co en général aux JO. L'autre chose qui s'est passée, c'est l'Open d'Australie qui a pris fin dimanche dernier avec une victoire de Yannick Sinner chez les hommes, pourtant mené 2-7-0 face à Medvedev. L'Italien a réussi à remonter la pente et devient ainsi le premier Italien à gagner un grand chelem. Voilà, chez les dames, c'est Aryna Sabalenka qui l'emporte en 2-7, 6-3, 6-2. Face à la chinoise Zheng Qinwen, pardon pour la prononciation qui n'est sûrement pas très bonne, je m'attendais pas à voir Sinner remporter l'Open d'Australie. Je pense que pas grand monde s'y attendait même, parce que il était pas dans les favoris.
On voyait surtout Djokovic et puis Alcaraz, je pense, briller. Ça nous a surpris un petit peu. En plus, Djokovic qui se fait éliminer par Sinner, donc Sinner fait vraiment
qui a fait un beau parcours, c'est clair. Il mérite complètement son titre.
Surtout que voilà, son match contre Djokovic, il mène déjà d'entrée de jeu 2-0. Djokovic recolle et derrière il fait le boulot pour finir ça. Non, c'est bien, ça a peut-être amené du peps au côté masculin où habitué, on va dire, au final, maintenant, Djokovic, Alcaraz, Nadal, enfin.
Ouais, voilà, c'est une nouvelle génération
là, de processeurs qui arrive. De ceux qui tapent à la porte depuis un moment, là, ça.
Ouais, voilà.
Ils enfoncent la porte et ils se créent des opportunités.
Je pense qu'on va en voir de plus en plus, des surprises comme ça. Enfin, des très bons joueurs quand même, mais moins que, les gros. Pas Djokovic,
pas forcément des outsiders, mais pas les plus grosses têtes de série.
Oui, c'est ça.
Des top 10 ATP, mais qui sont toujours là et peut-être un classement qui va être plus changeant avec le départ du Big Three, Federer, Nadal et Djokovic.
S'il n'en reste plus qu'un maintenant.
Il n'en reste plus qu'un, deux.
Nadal, il a voulu se préserver.
Ouais. On verra ce que ça a donné.
Mais je pense que eux, dans leur tête, ça va être plus les JO, l'objectif.
Pour Djokovic.
Pour Nadal, ouais.
Ouais, sûrement. Ce sera peut-être pour Nadal en tout cas,
sur terre battue.
Voilà, il a Roland Garros, bien sûr, dans la tête. Mais je pense que un titre olympique, c'est quand même
C'est
inégalable. Quoi.
Pour finir sa carrière.
On verra bien ce que ça donnera. Maintenant en ski freestyle, on n'a pas l'habitude de parler de ça ici, mais je l'ai vu passer, une Française a gagné deux médailles d'or au X Games d'Aspen dans le Colorado. Voilà, c'est Tess Ledeux qui a gagné deux médailles d'or en ski freestyle avec.
On est un petit peu habitué avec Tess. Hein.
Ouais.
Ouais.
C'est une grosse de ski freestyle. Ouais.
C'est ce que j'ai vu en lisant des articles. Des nouvelles figures.
Que ce soit au JO ou depuis de toute façon qu'elle est sur le circuit des X-Games. Elle a un très beau palmarès.
C'est un peu comme Perrine Lafont au ski de boss. Je sais pas si t'as la ref.
J'ai la ref. Mais ça fait plaisir du français qui continue de briller au ski. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, on va passer. On va rester aux États-Unis. Je vous parlais de NBA avec d'abord toujours ce point sur.
Avec l'instant Wemby.
Voilà, comme toutes les semaines, c'est inévitable parce que les Spurs ont quand même gagné 2 victoires d'affilée. Vous vous rendez compte, je sais pas si c'est arrivé cette saison. Je crois que c'est arrivé une fois cette saison déjà. Mais bon, c'est assez rare pour le souligner. La première, c'était contre les Blazers, mais c'est surtout la deuxième victoire qui nous intéresse car c'était contre Minnesota qui était premier du classement à l'Ouest. Personne ne s'attendait à voir les Spurs s'imposer contre eux, avec notamment une action de Wemby avec un super Shamgod sur Rudy Gobert. Il finit le match avec 23 points, 10 rebonds, 6 passes décisives. C'était hier soir aussi, il y avait le match retour contre les Washington Wizards, où du coup il a retrouvé son ancien coéquipier des Mets, Bilal Koulibaly. Et contrairement à la première rencontre, c'est Washington qui a gagné, avec une bonne prestation de Bilal Koulibaly, qui, je le rappelle, est désigné comme le seul joueur intouchable de cette équipe au transfert. Sinon, en NBA, la grosse actu qui est tombée, c'était la semaine dernière déjà, il y avait Joel Embiid qui avait sorti une performance incroyable en scorant 70 points. Et Luka Doncic a fait encore mieux. Il en a mis 73, record personnel et record de la franchise, évidemment. C'est la troisième meilleure performance de tous les temps, à égalité avec celle de David Thompson et de Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain qui détient aussi la première avec ses 100 points. Et sinon, en deuxième, on a Kobe Bryant qui avait mis 81 points. Il devient par la même occasion le 10e joueur de l'histoire à inscrire 70 points ou plus. Sachant que dans la même nuit, c'est Devin Booker qui a scoré 62 points à son tour. Il a d'ailleurs été élu joueur du mois avec 45 points de moyenne dans le mois. Je sais pas, c'est des stats que Will Chamberlain avait. J'en perds mon latin, mais c'est des stats que Will Chamberlain avait l'habitude de faire avec des saisons à 50 points. Mais dans le basket moderne, c'est beaucoup plus rare de voir ça. Mais il a mis 62 points. Il a quand même pas eu son match, un peu à la manière dont Karl Anthony Towns avait mis 60 points le soir de la perf de Joel Embiid. Et il n'avait pas non plus fait gagner son équipe. Voilà pour notre page d'actualité d'actualité locale et internationale.
T'as quand même oublié un événement.
J'ai oublié un événement.
On a notre finale pour le Super Bowl.
Ah oui.
Puisque c'était ce week-end, oui. On a eu les deux finales de conférence. J'ai envie de dire, ça commence, c'est un classique, hein, tous les ans. Ça sera à nouveau le Kansas Chiefs contre les San Francisco 49ers.
C'était la même chose l'année dernière?
L'année dernière, il me semble, oui.
Ah, voilà.
Kansas, c'est sûr. Mais
après, Kansas, sûr, ouais, mais, c'est sûr.
Après, l'autre, je ne connais pas.
Mais ouais, c'est une belle affiche, Cédric, si toi tu suis.
Ouais, sur le papier, c'est solide. Ouais. Cette année, j'ai un peu moins suivi la saison, mais on va pouvoir se pencher là-dessus, bien que ça va arriver très vite, puisque le Super Bowl, ça va être le 12 février, il me semble.
Ok, c'est dans.
On connaît le chanteur ou pas?
C'est Rihanna.
Ah oui.
Non, c'est.
C'est Rihanna.
Non, c'était l'année dernière, Rihanna.
Ah mince.
Elle ne le fait pas 2 années de suite.
Oui,
hein.
Autant pour moi. Non, c'est Tyler, the Creator, non?
Non.
C'est pas Tyler, the Creator.
Toujours pas.
Si, je sais que c'était un rappeur américain.
C'est
Wayne Savage ou un truc comme ça.
Non, c'est un plus ancien. Faut que je retrouve l'info.
Je vous ai posé une colle.
Hop, artiste.
Non, mais pour moi, il était disparu de la scène. C'est pour
ça.
Mais ouais.
C'est un Super Bowl 2024.
Alex,
c'est Usher, voilà.
Il l'avait dit, Alex, on peut.
Oui, mais il avait passé le morceau justement pour l'annoncer.
Ah oui, c'est vrai.
Mais Usher, ça fait tellement des années qu'on l'a pas entendu. Mm. Et envie de dire, mais pourquoi?
comme Snoop Dogg, un petit peu.
Snoop, c'est plus connu. Snoop, c'était avec Dre.
C'est sûr.
Donc en tout cas, voilà. Album commun qui va sortir entre Snoop Dogg et Dr. Dre, a priori.
Alors les albums avec Dre, attention, ça fait des années. Limite, t'étais pas encore né qu'il annonçait son nouvel album. Et tu vois, 18 ans après, ce que ça peut donner.
Mais voilà, une bonne affiche du Super Bowl qui nous attend. Moi, je sais que j'aime bien les regarder depuis 2-3 ans, même si j'y connais pas grand chose, mais ça me fait plaisir. J'arrive à me prendre au jeu. Je sais pas vous si vous les regardez.
Bon, pourquoi pas le regarder comme ça, en discuter un petit peu après. Je comprends pas grand chose aux règles, même si. J'essaye de m'intéresser un peu. Bon, voilà, on verra bien on verra bien si je regarderai, et puis on en reparlera.
On en reparlera du coup après le 12 janvier, je sais pas quel jour ça tombe, un 12 janvier.
Là, ce sera un dimanche.
Un dimanche.
Bon, c'est toujours dans la nuit du dimanche au lundi pour nous.
Voilà. On en parlera du coup le 14.
Le 14. Ou peut-être avant, on va voir.
Pourquoi avant?
Janvier.
Parce que
14 février.
Que ce sera février.
Ah oui, t'as dit janvier.
Ah, je dis janvier. Oui, attends, oui, bah, forcément, février, 14
janvier.
Parce
qu'on fait toujours une émission
spéciale Super Bowl.
Spéciale Super Bowl avant. Donc à voir si cette année on va pouvoir.
Voilà, 14 février, le jour des amoureux, il y aura la Champions League aussi.
À Paris.
Ouais, bon, on est habitué maintenant avec la Champions League.
Voilà, donc on verra ce qu'on fera en temps et en heure. En attendant, c'est la fin de notre page d'actualité locale et internationale. On va passer à la pause musicale avant de retrouver Yuli Steyer pour l'interview. On va s'écouter Sensation de Oudi. Sensation de Oudi. On va tout de suite passer à l'interview donc de Yuzil Teyer, pardon. Voilà, donc chargé de communication à l'UFAB 49. Je rallume le micro, autant pour moi. On va commencer sans plus tarder avec comment tu as atterri au club de l'UFAB 49.
Alors moi j'étais en alternance il y a 2 ans, j'ai fait mon master à Rennes en management du sport, communication événementielle, et pour ma deuxième année d'alternance j'ai voulu aller chercher un club de ligue féminine, donc j'ai postulé en communication à l'UFAB et j'ai été prise. Là j'ai fait ma deuxième année d'alternance et après ils m'ont embauchée à la suite de mon alternance.
Donc maintenant t'es 100%... j'ai oublié mon mot.
Salarié,
voilà, exactement.
Je suis salarié, ouais.
Voilà.
C'est ça.
Donc, parfait. Deuxième question, en soi, en quoi consiste ton travail? C'est quoi une journée type à l'UFAB 49?
Une journée type, c'est difficile à dire parce que j'ai pas vraiment de routine. Moi, dans mon métier, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai plusieurs casquettes. Me charger de communication, ça veut un peu tout et rien dire. Je suis photographe, vidéaste, réalisatrice, graphiste, tout ce que vous voulez. Donc, Donc une journée type, ça dépend. Soir de match, on va dire que je suis plus au plus près de l'équipe pro pour essayer de mettre en avant l'équipe pro sur les réseaux pour que les gens réservent des places pour aller au match, etc. Sinon, ça va être tout le travail de l'ombre. Quand c'est pas sur les matchs, je suis plutôt derrière mon ordinateur, faire du graphisme, du montage, etc. Donc ça dépend vraiment des jours.
Ça, tous les posts qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, c'est toi.
C'est moi, c'est ça.
Même sur le site peut-être de l'UFAB.
Sur le site aussi, ouais, c'est moi.
Voilà, on retrouve son travail partout, au final, on voit l'UFAB.
Ça permet aussi de soulager aussi Mathieu, qui s'occupe plus de la partie du coup partenariat et communication aussi. Plus accès du coup envers les partenaires. Toi, tu t'occupes plus, on va dire, de la partie grand public.
Ouais, c'est ça. Après, on travaille beaucoup en collaboration, oui. Même avec Camille, la billetterie qui est alternante. Par exemple, pour revenir à ton exemple, Mathieu, lui, il va aller chercher les partenaires. Mais quand il y a des prestats à proposer, par exemple, sur des LED, bord de terrain, etc. Donc ça, c'est moi qui dois faire. Donc de toute façon, on travaille toujours ensemble.
Ça, t'es pas seul dans ton équipe. Enfin, c'est une espèce de petite équipe.
Non, bah après on est 4 salariés donc et une alternante. Oui. Donc si tu veux, on est obligé de travailler ensemble. Sinon on s'y perd et c'est ça aussi, je pense, qui fait vraiment notre force à l'UFAB.
Oui, ouais. Puis faut le rappeler, l'UFAB c'est un des rares clubs où il y a très peu de salariés et beaucoup de bénévoles et on sait que les bénévoles tiennent à cœur aussi de soutenir le travail qui est fait par
bien sûr.
Par l'équipe.
Ça va dans les deux sens. Il y a des bénévoles qui sont là depuis 20 ans et on a envie de continuer, nous, à les mettre en valeur, à les valoriser. Et puis, eux-mêmes, ils voient le travail qui est fourni depuis le début de la saison. Donc, ça donne envie à tout le monde de pouvoir faire des efforts et d'aller dans le même sens.
Voilà. Ensuite, du coup, tu disais, notamment sur les soirs de match, t'étais au bord du terrain, concrètement. À quel point, à quelle fréquence tu vois les joueuses et t'es souvent en contact avec elles pour son travail?
Je suis tout le temps en contact avec elles. C'est-à-dire que les soirs de match, ça va dépendre de ma mission le soir de match. C'est-à-dire que moi, soir de match, je suis plutôt en community management. J'ai un photographe qui s'appelle Léo, qui travaille avec moi les soirs de match, donc il me fournit des photos en temps réel pour que je puisse les poster. Donc je suis plutôt community manager soir de match, mais en règle générale, je suis tout le temps avec les pros, je vais à l'entraînement souvent, je fais des interviews, je les accompagne en conférence de presse, j'accompagne la coach aussi pour faire des émissions comme ici par exemple, chez les partenaires, donc vraiment, j'ai vraiment un travail aussi d'accompagnement envers le staff technique et les joueuses professionnelles.
Vous n'êtes les gars, pour l'année prochaine, on fait signer le contrat pour les interviews, comme ça nous, on en profite.
Et du coup, sur les soirs de match, est-ce que tu accompagnes aussi les joueuses sur les déplacements?
Alors, ça dépend des déplacements. Moi, je sais que j'ai fait là les déplacements les plus courts, c'est-à-dire La Roche, Landerneau. J'essaie de les faire. Et la semaine dernière, je suis allée à Basketland, donc un peu plus loin. Mais en règle générale, le club privilégie quand même les bénévoles qui sont là depuis longtemps pour aussi les mettre en avant et puis les récompenser entre guillemets de tout le travail qu'ils fournissent au quotidien.
Et puis sur un derby, enfin forcément le travail est déjà beaucoup plus important en termes de communication, tout ça.
Ouais, bien sûr. Je pense que tous les matchs sont importants en communication, mais c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont quand même plus propices au mouvement sur les réseaux ou même dans les salles. Donc oui, c'est sûr que un derby, c'est fort en émotion, donc pour tout le monde aussi, c'est pareil.
Par exemple, sur les déplacements, est-ce que pour couvrir le match, du coup, vu que tu n'y es pas vraiment, ça se passe comment, du coup?
Alors, avec la Ligue féminine, on a une plateforme, on a un réseau commun où chaque club est obligé de mettre des photos sur le réseau. Comme ça, nous, on peut les récupérer et on peut communiquer à notre tour sur nos propres réseaux.
D'accord.
En fait, ce qui est très pratique, parce que quand les clubs n'ont pas les moyens de faire déplacer des salariés ou des chargés de com, là on a la possibilité de récupérer des photos facilement, donc c'est vrai que c'est quand même un atout.
Ouais, ça, la Ligue t'aide beaucoup finalement dans ce travail pour partager l'image du club Oula, pardon, je perds ma voix. Quand tu peux pas être sur place.
Oh ouais, c'est sûr. Après, c'est aussi pour eux hein, qu'ils le font. Oui. C'est pour leur visibilité. C'est pour la visibilité de la ligue. Donc, en fait, c'est un duo gagnant-gagnant pour le coup. Ouais.
Ouais. Maintenant, un peu plus sur toi personnellement. Du coup, tu disais tout à l'heure, t'as recherché un club de ligue féminine pour ton alternance. C'était une volonté vraiment d'être dans le basket. C'est quoi ton rapport au basket en général?
Bah moi j'ai commencé le basket à 3 ans, donc autant te dire que plutôt passionnée. Je suis passée par le centre de formation de Landerneau, et pour la petite histoire, Kekeli Elenga était dans l'équipe de Landerneau quand moi j'étais en espoir. Donc là qu'on se retrouve à Angers, c'est assez drôle. Et puis bah moi j'ai toujours été passionnée par le basket féminin. Et puis par la communication et puis par l'audiovisuel. Donc en fait, je me suis naturellement tournée vers mes études qui étaient la communication. Donc voilà, pourquoi Angers, pourquoi la ligue féminine? Parce que j'aspirais à aller au plus proche des joueuses professionnelles, parce que je connaissais un peu comment ça fonctionnait dans un club pro et que j'aimais cet environnement. Donc tout simplement, je me suis tournée vers l'UFAB parce que mes études étaient à Rennes et que Rennes-Angers c'était pas très très loin, on va dire, mais ouais, c'est pour ça.
Et t'as encore le temps de pratiquer un peu de basket en ce moment ou depuis que t'es arrivé à Angers?
Ouais, j'ai joué à Belleveil, à la CBB. Okay. Et après j'ai arrêté parce que je manquais de temps, mais pourquoi pas après reprendre une saison. C'est vrai que je voulais jouer en National 2 quand je suis arrivé à Angers, sauf que la Nationale 2 ça jouait le samedi soir et la Ligue aussi, donc très compliqué de concilier les deux, donc j'ai dû faire un choix et mon choix s'est tourné vers mon parcours professionnel.
Voilà. Est-ce que du coup tu jouais à quel niveau quand tu étais à Landerneau?
Landerneau j'étais en espoir, donc je jouais en N2. Okay. Et j'étais en espoir avec les pros en Ligue 2. Okay. Avant qu'elle monte en Ligue féminine.
Ouais, c'est un bon niveau, c'est...
Ouais, après j'étais en espoir, donc c'est voilà. Ouais,
c'est la place est réservée, c'est ça.
Oui, la place est réservée et puis bon après on est quand même monté en, parce qu'on n'avait pas notre place dédiée en National 2, on a été championne de France N3, donc on est monté en National 2, donc on méritait notre place. C'est important de le dire. Oui. Mais après en tant qu'espoir en Ligue 2, ouais c'était une bonne expérience.
Ouais, et ensuite, sans trop de transition, tu me disais aussi tout à l'heure du coup, que tu faisais un peu tout, du graphisme, de la photo, de la vidéo, tu postes sur les réseaux, etc. Tu fais ça, c'est quoi vraiment ton matériel de travail de tous les jours?
Alors, je viens d'acheter mon boîtier, c'est un Sony A7 IV, donc c'est un boîtier, un appareil photo professionnel, et j'ai acheté mon objectif là aussi récemment. Après, c'est mon matériel perso. Avant, j'avais un petit appareil photo que je m'étais acheté il y a un an et demi. Mais là, j'ai vraiment investi pour pouvoir produire du contenu qualitatif.
Ouais. Du coup, tu l'as depuis quand, ce nouveau boîtier, ce nouvel appareil?
Ça fait 3 semaines.
Ah oui. Okay,
c'est ouais, vraiment c'est tout récent. Okay, c'est vraiment
mais l'avantage d'avoir ça, c'est que tu peux faire aussi bien de la photo que de la vidéo. Et c'est vrai que ça, c'est...
C'est ça, ouais.
Ça a un prix, ouais. Mais surtout les Sony sont reconnus pour avoir des belles images. Et c'est vrai que bah, c'est ce qu'on recherche aussi. Hein, bah, au-delà du contenu, c'est la qualité aussi de l'image que tu veux renvoyer. Et ça passe par, hélas, des achats à quelques zéros derrière.
Ouais, pour le coup, c'est vraiment un investissement. Et oui, c'est... Après, moi, c'est comme tu disais, je cherchais vraiment un appareil polyvalent qui puisse faire de la photo très quali et de la vidéo avec des belles images. Donc, c'est ce que je cherchais, globalement. Ouais. Mais oui, il faut investir.
Est-ce qu'on risque de voir ça? On l'a peut-être déjà vu dans les stories Insta ou...
Oui, les dernières vidéos là que j'ai publiées, c'était avec mon nouveau boîtier, donc vous pourrez aller checker. Mais
ouais, c'est ce que j'ai dit.
Mais en tout cas, je vais bien aller à l'entraînement, je vais bien aller voir les matchs, essayer d'aller le plus en déplacement possible avec mon nouveau matériel. Ça donne envie de se déplacer, ouais. Quoi.
Faut rentabiliser, j'ai envie de dire.
Exactement.
Là, plus tu l'utilises, plus tu t'améliores.
C'est ça, carrément.
Est-ce que vous avez des questions, les gars?
Ouais, pourquoi pas donner le nom des réseaux sur lesquels tu postes, enfin, pour l'UFAB, du coup, pour que les gens qui écoutent puissent aller checker ça. Je vais...
Principalement Instagram, donc UFAB49. Derrière, je sais que Mathieu poste aussi pas mal sur LinkedIn. Mmh. On a Facebook. Et on va bientôt ouvrir donc un compte TikTok.
D'accord.
Voilà, on n'est pas trop étendu au niveau des réseaux.
Ouais.
On voulait plutôt se concentrer sur des réseaux particuliers qui marchent bien plutôt que s'étendre et pas pouvoir faire les choses correctement. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas encore ouvert de compte TikTok par exemple. Mais oui, c'est en projet.
Puis des réseaux un peu plus sécurisés.
Ouais, ouais.
En
après,
termes de modération, des choses comme ça. Fin...
Ouais, c'est sûr, je connais pas les règles de confidentialité de TikTok, mais bon, on sait que ça peut quand même rapporter beaucoup de vues. Donc avec des vidéos en plus qui sont pas ultra travaillées, l'algorithme est un peu bizarre par rapport à ça. Donc je le connais pas encore parfaitement, mais en tout cas, je sais que ça peut buzzer très vite, donc ça peut être intéressant pour nous. Donc c'est pour ça que aussi c'est en projet quoi.
Ouais, aussi est-ce que tu suis le centre de formation de l'UFAB ou t'es vraiment que sur l'équipe professionnelle?
Moi, je suis seulement sur l'équipe professionnelle. Après, on essaye de prendre des stagiaires qui, eux, vont suivre le CDF et la partie amateur. Après, moi, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup à faire déjà sur le pro. Donc, c'est difficile de me diversifier avec les jeunes aussi, même si j'aimerais parfois aller plus au match et plus les suivre et plus poster, etc. Mais en tout cas, au niveau du temps, je suis déjà pas mal prise avec les pros, donc c'est difficile pour moi de me diversifier. Mais
ça, et du coup, les stagiaires qui arrivent, c'est toi qui les gères ou c'est une autre branche, c'est quelqu'un d'autre?
Non, ça dépend. On reçoit pas mal de CV, de lettres de motivation. Je sais que là, en ce moment, on a deux stagiaires. Donc, on a une stagiaire en commercial qui m'aide aussi sur la com, et on a une autre stagiaire en événementiel. Après, je sais que moi, je transmets les CV, les lettres de motiv, mes collègues, si jamais il y a besoin, etc. Je sais qu'il y a deux stagiaires, il me semble, sur la partie amateur. Donc, on n'hésite pas à prendre pour nous aider, pour les former. C'est tout un autre honneur et c'est aussi tout bénéf pour les étudiants qui viennent, donc c'est cool.
Ouais, ce sera la relève, j'ai envie de dire, même si
exactement.
Ton poste
pas.
N'est pas du tout en danger. Mais voilà, la relève est quasiment déjà assurée.
Non, mais c'est des postes où, en fait, le métier a changé, mais une vitesse folle. Enfin, moi, j'ai eu ça pour tout ce qui était web designer. En quelques années, il a fallu intégrer, par exemple, tout ce qui était Instagram, Twitter, alors qu'à une époque, c'était juste créer le site et le remplir. Là, maintenant, bah, t'as toute la partie vraiment comment bien la gérer. À tel moment, c'est devenu plus qu'un simple métier de créateur, c'est vraiment un métier de gestionnaire.
Ouais, carrément. Moi, je sais qu'avec mon compte personnel, c'est carrément un moyen d'expression maintenant. Et puis, c'est un peu la façade de ce que je peux produire aussi. C'est un peu mon CV, on va pas se mentir. Je sais qu'il y a des pros qui sont déjà allés sur mon compte, qui m'ont envoyé des messages pour des prestats ou quoi. Donc, maintenant, moi, c'est clairement un outil marketing, hein, presque. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, j'avais oublié, mais on a Twitter aussi. Et on a une sacrée communauté sur Twitter. Enfin, sur X.
Oui, ça a changé.
Bien que j'ai l'impression que c'est peut-être un choix aussi, il y a moins de posts sur Twitter que sur Insta.
Ouais, alors ça, c'est un choix personnel. Mais en vrai, il faut que je me remette vraiment sur Twitter. En plus, on a une grosse communauté qui réagit pas mal. Je crois qu'on est à peut-être 5000 abonnés. Donc, ce qui est vraiment pas mal pour un compte Twitter, pour une ligue féminine. Après, oui, Instagram, on va dire qu'on a encore plus d'interactions. On a vraiment des gens qui nous suivent, qui commentent. Donc, c'est vrai que Instagram, on publie plus.
La faculté aussi de renvoyer directement sur Facebook.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une facilité avec Meta, ouais. C'est clair qu'avec Meta...
On peut gérer deux outils de communication en un.
Ouais.
C'est un petit peu point faible de X, on va dire, par rapport à ça, qui n'arrive plus à se greffer à ça.
Instagram aussi, c'est plus propice aux produits audiovisuels. Enfin, alors ouais, que sur Twitter, t'as beaucoup de textes, quand tu ouvres ta page, c'est beaucoup de textes, t'as peu d'images. Alors que sur Insta, c'est que des images. Donc,
j'imagine. Oui, carrément. Ça fait partie aussi des réseaux Twitter qui limitent, par exemple, les caractères. Mmh. Et en fait, t'es vite limité. Et donc, quand t'es vite limité,
tu bascules sur autre chose
en vrai. Donc nous on utilise plus Instagram, mais parce que comme tu disais il y a plus d'audiovisuel, puis maintenant on consomme beaucoup à la va-vite, ouais. En fait faut que ça dure moins de 10 secondes ou presque 10 secondes, c'est trop long, il faut que ça swipe très vite. Et Twitter l'a moins, je trouve, que Instagram. Donc voilà,
ouais, c'est vrai.
Une petite question, c'est peut-être un petit peu prématuré, mais qu'est-ce que tu vois pour ton avenir, rester à l'UFAB, changer, par exemple, aller chez les hommes, ou enfin voilà, qu'est-ce que tu vois pour ton avenir?
Honnêtement, moi pour mon avenir, je voudrais plus être content creator, c'est-à-dire pas forcément chargé de communication, mais peut-être suivre une équipe en particulier. Et les suivre et produire des visuels, de la vidéo, de la photo, et peut-être être moins dans la stratégie.
Ouais. Sur un format plus long, par exemple. Enfin, comme un documentaire ou.
Ouais, ça peut être documentaire, même sur TikTok, ça peut être vraiment créer de l'audiovisuel.
Okay.
Et peut-être un peu moins de graphisme et de la stratégie de communication, en fait, générale, que tu apprends à l'école, basiquement, quoi. Et donc, moi, j'aimerais faire ça, plus tard. Après. L'UFAB, je sais pas si ce sera possible, parce qu'ils aspirent pas vraiment à, tu vois, que je suive l'équipe et tout. Mais pourquoi pas, ouais, suivre plus du coup en ligue féminine,
ouais.
Ou alors un club d'Europe, ou que sais-je, ouais. Pourquoi pas, Inch'Allah, comme on dirait.
Après, il y a peut-être déjà des petits projets sur des courtes durées qui vont être mis en place pour mettre en avant peut-être les activités du club ou des choses comme ça.
Je sais pas, parce que moi, mon contrat se termine le 30 juin. Je suis en CDD, donc je sais pas si mon contrat va être renouvelé. Et en tout cas, ce serait un pas en arrière pour l'UFAB, pour moi, de d'enlever cette partie-là, qui est la communication. Je sais que c'est pas facile pour tous les clubs au niveau budgétaire. Mais que quelqu'un comme Bourges ou comme Lyon ou comme Basketland justement aille suivre l'équipe, en fait, ça peut être quand même incroyable pour la visibilité de tout le monde et du club en particulier, quoi.
Ouais, c'est clair que sans ça, le club brillerait sûrement beaucoup moins, ne serait-ce que dans la ville d'Angers. Sinon aussi, est-ce que tu suis le basket, peut-être, j'imagine que la ligue féminine, évidemment, tu la suis pour parce que t'es obligé. Mais est-ce que tu suis d'autres championnats, la NBA, la Becky Elite, la WNBA, peut-être, s'il n'y a pas grand-chose en ce moment?
En vrai, je suis un peu tous les sports. Enfin, quand vous parliez tout à l'heure, j'étais un peu au courant de tout. Parce que je suis une fan de sport, en règle générale. Après, la NBA, plus cette année avec Wemby. Justement, j'avais un peu lâché, là, ces dernières années. Depuis que Wemby est rentré dans la ligue, j'avoue que quand je vois ses highlights, ça me donne envie de regarder ses matchs. Des fois, je me lève tard le soir ou tôt le matin pour regarder ses matchs. Mais sinon, Elite, je suis pas trop, honnêtement. Après, je suis beaucoup le foot, la Ligue 1.
Et équipe favorite?
Pas équipe favorite, parce que mon équipe favorite est descendue l'année dernière.
C'était
Saint-Étienne.
Ah ouais.
Mais je dirais Brest.
Il y a Alex là qui vient de se retourner dans sa tombe.
Il est
pour Lyon.
Ok.
Mais Brest, du coup.
Ça arrive.
Heureusement qu'il n'est pas là ce soir, du coup. Mais du coup, Brest.
Brest ou Rennes, parce que du coup, ça va pas trop ensemble. Mais Brest, je viens des Côtes d'Armor de base. Et puis, à l'avant, avant, j'allais au Roudourou, à Guingamp, avec mon père. Voilà.
Je viens des Côtes d'Armor aussi.
C'est vrai. Ok, trop bien.
Du coup, ça doit bien se passer cette saison pour Brest. On en parlait tout à l'heure.
Rennes, c'est un peu moins bien, pour le coup.
Oui. 8e, bon, ça va quand même, mais c'est moins bien que d'habitude.
Ouais, c'est sûr.
Et bah, très bien. Je sais pas, les gars, si vous avez d'autres questions.
Non, comme ça, non, mais je peux te faire une breaking news le temps de.
Ah, les Ducs.
Les Ducs, bah oui, puisqu'ils ont ouvert le score il y a à peu près 14 minutes. Mais hélas, Nice est revenu. Mais en tout cas, on est toujours dans le premier temps. En tout cas, un partout.
Voilà. Ok.
Et ben voilà, on espère que ça va le faire pour les Ducs qui vont continuer sur une 4e victoire consécutive. Ça ferait plaisir. Mmh. Voilà l'émission.
Peut-être parler, on a encore un tout petit peu de temps. Parler du prochain match quand même des filles.
Oui. Bah oui, de l'UFAB 49.
De l'UFAB 49.
Oui, c'est contre.
Il sera jeudi soir.
Mmh.
À 20h30.
À Londerno.
Voilà. Ouais. Voilà, avec une bonne influence apparemment attendue. Aussi.
Ouais, il reste seulement 200 places là à vendre.
Ouais, donc vous savez ce qu'il reste à faire. Hein. Je sais qu'il y a quand même des petits événements d'animation qui sont prévus. On va garder la surprise pour les gens qui seront sur place.
Ouais, on va rien dire, mais en tout cas, ça va être très animé. Je pense que ça peut être très très cool. Et puis surtout que c'est un gros match. Donc faut venir voir les filles jouer et puis gagner.
Voilà. Et on va en profiter de nous pour l'annoncer. Bon, on va prendre un peu de temps avant de le publier, mais sachez qu'il y aura 10 places à gagner. Alors, ce sera en partie sur nos réseaux et aussi sur ceux de Radio G pour le match du 23 février. Donc, il y aura 10 places au total à gagner.
Voilà, un petit concours pour régaler nos auditeurs. Ça fait toujours plaisir. Il est 20h58, l'émission touche à sa fin. On va vous souhaiter une bonne soirée. Et on va se retrouver, dis-moi Clément.
Et bon match aux Marocains, s'il y a des Marocains qui nous écoutent.
Ouais, voilà, match qui va démarrer dans 2 minutes, s'il n'y a pas de retard. Voilà, bon, bah, bonne soirée et à la semaine prochaine.